La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Madame, messieurs, mon nom est Michel Cloutier. Bienvenue à La quotidienne. Je suis en compagnie d'Izzy Lévesque. Bonjour Izzy, comment ça va?
Bonjour Michel. Bonjour Michel, toujours un plaisir de t'accompagner.
Excellent. Alors, encore aujourd'hui, on va avoir différents intervenants. On sera des fois un peu plus présents, un peu moins présents. Des fois, avec les gens de l'Institut, on les laisse aller parce qu'ils sont bien préparés.
Exactement.
Aujourd'hui, on a Guy de Bailleul de l'Institut Jean Garon qui est avec nous et bien entendu Simon Bégin. Et aujourd'hui, on reçoit Michel Rochefort. On lui avait parlé il y a quelques émissions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait de l'aménagement du territoire agricole. On va un peu continuer dans ces lignes-là. Michel Rochefort est professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Bienvenue, M. Rochefort.
Bonjour. Merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Oui, alors, je te laisse aller encore une fois avec...
Alors, M. Rochefort, ça me fait plaisir de reprendre la conversation avec vous. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la réforme envisagée, la loi de protection de terres agricoles. Écoutez, on parle dans cet exercice-là de revoir la loi de protection du récolte. Mais il ne faudrait pas aussi revoir un peu la façon dont la commission de protection du territoire agricole, qui administre la loi, qui est le chien de garde du territoire agricole, revoir un peu ses pratiques, sa façon de fonctionner, la façon de nommer, de choisir les commissaires. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux de ce côté-là aussi?
Sur la façon de nommer les commissaires, je pense qu'il y a déjà une réflexion à l'interne de la CPTAQ, de la commission, là, pour améliorer ce choix de commissaire. Mais je pense que je vais intervenir un peu plus sur les critères. La loi définit actuellement différents critères sur lesquels la commission doit se pencher. Il y a des critères assez statiques, mais il y a des critères qui sont de l'interprétation. Et moi, je pense que ce qui devrait être amélioré, c'est justement sur ces critères interprétatifs. Il devrait avoir des guides mis en place qui offrent quand même une plus grande stabilité des décisions dans le temps et aussi une compréhension commune de ces critères facultatifs sur la totalité du territoire québécois. Donc, à titre d'exemple, quand on parle de la commission doit analyser les conditions socio-économiques nécessaires à la vitalité du territoire ou d'une collectivité, mais ce serait intéressant de savoir sur quels critères exacts qu'elle se base et comment elle les interprète. Si je peux me permettre de continuer à parler, la modification ne devrait pas nécessairement se faire uniquement sur la CPTAQ, mais même sur le rôle du MAPAC. Actuellement, le MAPAC est un acteur un peu isolé par rapport à le ministère des Affaires municipales qui parle d'urbanisation et le MAPAC d'un côté qui parle d'agriculture. Mais dans le fond, les deux devraient travailler main dans la main dans l'aménagement du territoire. Donc, je pense que c'est le rôle du MAPAC aussi en tant que protecteur du territoire agricole, mais aussi en tant que appliquer les mêmes finalités de développement durable à ce territoire que le ministère des Affaires municipales applique à l'intérieur des villes serait nécessaire.
Monsieur Rochefort, tout se passe comme si le MAPAC c'était en ce qui concerne l'utilisation du territoire à des fins agricoles, c'était déchargé en quelque sorte sur l'activité de la commission sans prendre en compte ses autres responsabilités pour d'abord que ce territoire soit effectivement bien géré, bien utilisé à des fins agricoles et puis qu'il le fasse dans une optique de développement durable.
Oui, ben tout à fait, c'est selon moi la réflexion qu'on doit avoir sur la protection et la mise en valeur du territoire agricole devrait aussi se traduire par un rôle beaucoup plus actif du MAPAC en tant que lui aussi aménageur du territoire québécois, du moins dans la partie agricole. Et dans la dernière refonte de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on est venu intégrer des finalités à l'urbanisation, là, la protection des milieux naturels, la mobilité durable, la protection de la ressource en eau, ben en territoire agricole, le MAPAC devrait aussi faire en sorte que ces finalités soient respectées et dans l'aménagement là, de la zone agricole.
Tout se passe comme si, lorsqu'on a adopté cette loi il y a un peu plus de 40 ans, et effectivement, on avait une certaine vision de l'agriculture, on avait une certaine vision de ce que devait être une exploitation agricole qui se reflète dans un certain nombre de critères utilisés par la Commission de la protection du territoire agricole. Et puis, par exemple, on n'évoquait pas du tout le rôle, le caractère multifonctionnel de l'agriculture, comme ça a été ensuite abordé dans les années 90. Et donc, en fait, on pourrait dire que la loi de protection reflète encore les conditions dans lesquelles elle est née, sans prendre en compte le changement de vision sur l'agriculture.
Oui, ou le changement de vision de l'importance du territoire en tant que objet en lui-même. Là. Je pense dans les critères, si on revient aux critères de la CPTAQ, on parle encore peut-être trop dans les critères de la CPTAQ de la notion d'usage, donc de la notion d'usage agricole du sol et pas de tout ce qui entoure cet usage au niveau protection, au niveau effet social, revitalisation du dynamique des noyaux ruraux, de la mobilité, du paysage. Donc, toute cette notion de multidimensionnalité de l'agriculture est peut-être peu tenue en compte et devrait aussi, selon moi, être appuyée par une certaine reconnaissance même au niveau du territoire agricole. Je pense qu'on dans les années 90, quand on développait la notion de multifonctionnalité de l'agriculture, il y avait aussi cette notion de quel est notre paysage québécois, en quoi la ruralité participe à ce paysage et au patrimoine québécois, mais il n'y avait pas nécessairement de fonds monétaires qui venaient aider les agriculteurs à protéger cette valeur patrimoniale ou paysagère.
Monsieur Rochefort, si on regarde ça d'un angle plus large, là, évidemment, là, il y a des efforts puis il y a une belle discussion à avoir pour la loi de protection agricole, mais si on regarde les menaces qui pèsent sur le territoire agricole, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être inquiet? Moi, je pense entre autres à ce qui domine beaucoup l'actualité actuellement, c'est la crise du logement, les enjeux d'immigration où on nous annonce presque 1 million de nouveaux Canadiens dans les prochaines années. On regarde ce qui s'est passé en Ontario avec la ceinture verte de Toronto. Est-ce que, s'il y a des apparences de vouloir assouplir la loi d'un certain côté, puis de l'autre, cette immense pression pour avoir de l'espace pour le logement, créer du logement, accueillir ces nouveaux arrivés. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être inquiet pour l'avenir de notre territoire agricole?
Oui, c'est sûr qu'il y a de pression vers le territoire qui va continuer à s'exercer. Malheureusement, dans le fond, comme le territoire agricole est souvent perçu comme un territoire en attente de développement, c'est sûr que c'est facile d'émettre des pressions dessus, étant donné qu'il coûte moins cher à urbaniser que des territoires qui sont déjà à l'intérieur de l'empreinte urbaine ou des périmètres d'urbanisation, pour prendre un terme plus technique, qui sont, eux, pollués ou occupés en partie, mais pas optimisés. Et c'est sûr qu'un développeur, dans son rôle, disons, d'aménager facilement le territoire, va aller vers le territoire agricole naturellement, et oui, le danger existe, d'autant plus que c'est un territoire plus facile à urbaniser, malheureusement, et c'est ce qu'on voit dans la région de Toronto. On a opté pour une certaine facilité qui paraît moins chère, mais qui, dans le fond, c'est que les coûts du développement qui sont pas là, on les rattrape plus tard par des coûts environnementaux ou des coûts au niveau du manque de terres agricoles. C'est qu'on fait balancer. Dans le fond, ça nous coûte moins cher pour urbaniser, mais on a de plus grandes pertes par la suite qu'on pourrait transformer en des pertes économiques. Là.
Donc, la vigilance s'impose pour notre protection, notre territoire agricole. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Rochefort. C'était fort instructif et on aura sans doute l'occasion de s'en reparler. Merci.
Merci.
On va une pause, on revient dans un instant. Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin. Fromagerie L'Ancêtre, Fromagerie La Station, Fromagerie Les Basques, Laiterie Charlevoix,
et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Moissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole.
Nous voilà de retour. Cette fois-ci, on va aller parler d'un autre, tout à fait dans un autre registre. Simon, on va parler de la crise porcine.
Oui, oui.
Il va s'en dire. Puis pour nous en parler, on a avec nous, Guy de Bayeul est toujours présent avec nous, et on a Yann Turmin, agronome, membre de l'Institut et collaborateur à la vie agricole qui va être avec nous. Alors, dans un premier temps, Monsieur Turmin, bienvenue.
Salut, comment ça va?
Ça va bien, ça va très bien.
Oui.
Alors, Yann, merci d'être là. Écoutez, juste pour vous situer, mon cher Yann, je pense que vous êtes un des fins connaisseurs de l'industrie porcine au Québec. Vous êtes dans le domaine de la production, de la nourriture, l'alimentation animale depuis des années. Et est-ce qu'on peut dire, Yann, que comprendre ce qui se passe dans le porc, c'est peut-être aussi compliqué que comprendre ce qui se passe dans le lait? C'est à s'arracher les cheveux, là, cette situation-là.
Ah ouais, il faut être très, très intelligent pour comprendre ce qui se passe dans le porc. C'est incompréhensible, même. C'est vraiment, là, ce qui se passe actuellement, là, c'est exceptionnel. On a demandé aux producteurs de couper 1 million de cochons, puis aujourd'hui, les abattoirs cherchent des cochons. Il manque de cochons. C'est difficile à comprendre.
On peut dire, Fayane, que le diable est aux vaches dans le cochon.
Oui, on peut dire ça.
Mais là, si on a demandé de couper et que les abattoirs en manquent, c'est quoi? C'est qu'on a trop coupé? C'est que la demande a augmenté? Qu'est-ce qui se passe?
Non, parce que les coupures ont été demandées pour la fin de l'année. C'est réellement, là, il y a une très bonne demande. Bon, ça se traduit au Québec. Puis au Québec, on manque de cochons, mais les prix sont moins chers qu'en Ontario. Pour vous donner un exemple, il y a 2 semaines, là, le prix ontarien est à peu près 30 à 40 $ de plus du cochon. Puis si on compare au prix américain, on est 90 $, entre 70 et 90 $ de plus pour un cochon. Avec le même cochon là, qui est fait de la même façon, là, ben, un producteur aux États-Unis va recevoir dans ses poches à peu près 70 à 90 $ de plus qu'au Québec. C'est pas normal. Puis en Ontario, qui est plus proche, là, on parle de 30 à 40 $ de plus qu'un producteur va recevoir pour son même cochon.
Et avec, Yann, je crois, des coûts de production qui sont moins élevés aux États-Unis et en Ontario qu'au Québec. Donc, la marge de profit...
Oui. Un cochon, ça mange du maïs puis du soya, puis le maïs puis du soya coûte beaucoup moins cher en Ontario puis aux États-Unis. Il y a une problématique, là.
Mais là, qu'est-ce qui risque de se passer si les abattoirs manquent de cochons? On diminue la production pour la période des fêtes. Ça va être quoi le scénario après? On va devoir aller en chercher à l'étranger?
Ils vont peut-être plus d'importations s'il manque de jambon. Ben, ce que ça veut dire, c'est que le jambon de Noël va coûter plus cher. Puis probablement qu'il va y avoir de l'importation de viande. Je le garde, je sais pas. Là. Comme on dit, c'est très difficile à se fier à qui que ce soit parce qu'on nous dit quelque chose, puis il se passe le contraire. Oh. Regardez, là. Je pense qu'il y a des questions sérieuses. Il y a des gens parfois qui posent des questions sérieuses aux gestionnaires, là, qui est l'ancien syndicat des porteurs de porc, les éleveurs de porc du Québec. C'est eux autres qui ont la responsabilité de la gestion. Qui est une gestion qui est supposément ordonnée. Moi, il y a des questions qu'on voit qui se posent là. Traditionnellement, il y a déjà des gens qui leur ont posé des questions, puis ils sont toujours fait répondre. On travaille dur. Ah oui, mais vous travaillez dur là, mais.
Mais Yann, on peut manquer de se poser la question. La production porcine, ça a été un moment, la production part dans le secteur agricole. On obtenait des contrats aux exportations, d'abord aux États-Unis, ensuite au Japon. Donc, et on avait l'impression que dans ce domaine, sky is the limit. Et c'est comme ce qu'on disait encore dans les années 90, il fallait envisager des exportations. Et aujourd'hui, on a un secteur en crise. Comment expliquer ce renversement?
Ben, ce renversement-là, d'abord, première des choses, la production dans les années 90 puis la production d'aujourd'hui est vraiment très différente. Dans les années 90, on avait une multitude de producteurs. Il y avait beaucoup, beaucoup de producteurs. Il y avait peut-être pas loin de 3000 producteurs. Il y avait beaucoup d'entreprises. Moi, j'ai été une de ces entreprises-là, une des rares survivantes, d'ailleurs. Et on assistait à de l'intégration, de la concentration, de plus en plus de concentration. Et là, on revient à un sujet qui dans d'autres domaines est à la mode. Là, c'est le problème de compétition. Un secteur en santé, c'est un secteur qui est très compétitif. C'est-à-dire qu'il y a de la compétition, et puis il y a de l'amélioration parce qu'il y a de la compétition. Ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est des monopoles qu'on avait à l'IMEL qui contrôlent pratiquement 80% de la production. Ben, peut-être qu'on a un problème là. Il va falloir, je pense, on est vraiment dans un système d'oligopole dans le port. Moi, je pense qu'une des problématiques est là. Il n'y a pas rien que cette problématique-là, mais ça, c'en est une. Là.
Tu parles de concentration, mais c'était une des productions qui, au fil des années, a été largement soutenue par des programmes comme ceux de l'ASRA.
Oui, ben, l'ASRA a contribué à les gens vont vous dire à la consolidation du secteur. Ça n'a pas été. Moi, j'appelle pas ça une consolidation, une concentration du secteur. L'ASRA a contribué, parce qu'il y a quelques joueurs qui ont reçu des très, très gros chèques, puis utilisé, en fait, ces chèques-là pour accélérer leur concentration. Puis, par le fait même, éliminer la compétition, la saine compétition, si on peut dire, là, entre les différents maillons de la chaîne, là. Ça, on a complètement perdu ça aujourd'hui, là. Là, on se réveille avec un secteur qu'il va falloir peut-être se le dire, franchement, qui est malade, là, puis que ça va prendre un traitement de cheval là, pour le sauver. Là.
Maintenant, Yann, écoute, moi, j'essaie de voir le côté humain dans ça. Il y a des producteurs, des éleveurs de porc qui c'est leur passion. Là, on les a invités à quitter le secteur. Ça doit être déchirant pour bien des familles. Et là, ils voient qu'ils ont le message contraire. Ils doivent être déjà un peu désespérés là, dans les rangs là, face à cette situation-là.
Ben, c'est ça qui est le plus grave. Parce que tu sais dire blanc, puis tu te rends compte que c'est noir. Alors, comment tu veux, après ça, arriver à gérer un secteur où c'est que ceux qui donnent les ordres, en fin de compte, ceux qui envoient les signaux, ont plus de crédibilité parce que quand ils envoient un signal, il se passe le contraire. Alors ça, je veux dire, je pense que ça, c'est très, très, très dommageable parce que tout secteur, quand même, a besoin. Moi, je suis un ardent défenseur des plans conjoints. Je pense que pour avoir des bonnes productions, ça prend des plans conjoints, mais un plan conjoint, pour qu'il marche, il faut qu'il soit crédible. Un matin, on a une problématique, c'est que le gestionnaire du plan conjoint, avec des choses qui se passent actuellement, ben, en tout cas, il est de moins en moins crédible.
Et en même temps, on voit des acteurs comme Breton qui demandent à pouvoir se soustraire aux obligations du plan conjoint parce que lui, il estime mettre sur le marché un produit différent, élever des porcs différents et que ça ne relève pas de la logique de l'ensemble du secteur.
Oui, c'est sûr. Mais Breton, c'est pas la première fois qu'il demande de sortir du plan conjoint et à plusieurs reprises, il l'a demandé. C'est sûr que je suis obligé de donner raison aujourd'hui à voir un peu la situation actuelle. Je veux dire, on aurait tendance à lui donner raison, là. Mais c'est pas la première fois là, qui essaie de sortir ou qui s'oppose au plan conjoint, là.
Qu'est-ce qu'on peut prévoir, Yann, pour l'avenir? Là, je ne sais pas le nombre de porcs au Québec. C'est presque autant de porcs au Québec que de Québécois. Là. On est dans le 6-7 millions.
Oui, ben, un peu moins. Là. On est plus dans le 6, mais on a déjà été beaucoup plus que ça. Là. la production de porc est depuis quelques années quand même en contraction là au Québec. Honnêtement, la plupart des gens, là, les experts militent là pour une réduction de la production au Québec sur une base de long terme. Là, je pense que c'est une sage décision. Là. Parce que c'est quand même une production, oui, qui a eu beaucoup de soutien de la part. Ça a coûté très cher au gouvernement, la production porcine. C'est mis beaucoup, beaucoup d'argent public là-dedans. Là, faut quand même le rappeler. Or, moi, je pense en avoir moins, mais je pense qu'il faut revenir avec beaucoup moins de concentration. C'est un secteur qui est hyper concentré. Ça, je pense que c'est une erreur, ça.
Donc, revenir avec plus de producteurs indépendants, propriétaires des ports, propriétaires de leur porcherie, que d'avoir ces grands conglomérats qui contrôlent l'alimentation, qui possèdent le porc, qui assurent les services vétérinaires. Donc, ce modèle-là a atteint ses limites.
Moi, je pense que c'est... Tu sais, aujourd'hui, là, on dit les producteurs de porc, mais en vérité, là, des producteurs indépendants, là, c'est que c'est une famille et tout, il n'y en a pas qui sont libres de leur foule, qui sont pas des travailleurs, là, parce qu'un intégré... Un producteur intégré, c'est un peu un travailleur. Ça devient un travailleur agricole dans une certaine mesure. Là. Mais un producteur indépendant, il en reste pratiquement plus. Là. Ça, c'est un chiffre qui est à peu près impossible à avoir, mais qu'on estime aux alentours de 200, 250 producteurs indépendants. Quand je vous parlais, il y a les années 80, il y en avait 3000. Là.
Ah ouais, bon.
Une chose est sûre, une chose qui est à retenir des commentaires que j'entends, il faut voir que ce soit une industrie qui donne plus leur juste, là, parce que si on dit aux producteurs arrêtez de produire, puis on en manque du côté des abattoirs, il y a quelque chose qui marche pas quelque part, il y a quelqu'un qui a pas fait sa job ou qui a mal analysé les indicateurs. Là.
Probablement, faut poser la question aux éleveurs de porc. On a un système au Québec où c'est que justement on a un plan conjoint, il y a justement quelqu'un qui est chargé de s'occuper de ça, mais il y a des questions sérieuses qui doivent être posées aux gestionnaires et idéalement de façon publique, pas en cachette dans un bureau quelque part. Là.
Non, c'est ça.
Ouais. Et sur un plus terme, quand on regarde la diversité des produits qu'on est capable de produire avec du cochon et qu'on fait face en fait à un modèle de production qui s'applique sur un nombre de races très limitées sur un mode d'alimentation unique, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi lieu de réfléchir à une plus grande diversité dans les types de production, dans les types d'élevage, de races?
Ben absolument. Puis je pense que de toute façon, si on veut avoir une production porcine au Québec, ça va devoir passer par des changements énormes, majeurs. Et je pense que si on décide en tout cas, les décideurs décident qu'ils procèdent à ces changements-là, parce que ça va être une très bonne occasion justement d'adresser ce genre de défi. Et je pense que ça, oui, on doit privilégier la diversité. On n'est pas des marchés de masse, nous autres, on est des marchés. Puis on est bon, la production porcine, on a des très bons producteurs, on a un environnement qui est encore existant, qui sont encore là, on a des très bonnes bâtisses. Je veux dire, il y a une infrastructure de très haute qualité, probablement une des meilleures dans les pays occidentaux. Là. Or, ce serait quand même dommage de tout perdre ça. Là.
Oui, effectivement. Ben, je pense que c'est ça. On peut clore la discussion ici pour l'instant.
Le sujet n'est pas clos, mais pour aujourd'hui.
Non, effectivement, le sujet n'est pas clos.
Pour l'instant.
Je dirais pour l'instant aujourd'hui, mais le sujet est loin d'être clos. Je pense que même qu'on vient un peu d'ouvrir une espèce de boîte de Pandore de questions là, surveiller au cours
l'automne, des... Je pense que l'automne. Yann, l'automne va être assez chaud dans le secteur du sport. On va suivre ça, c'est sûr.
Merci beaucoup, donc, Yann Turmin, agronome. Et merci Simon, Guy de Bayol également, qui est avec nous. Merci, Izzy. C'est à la quotidienne. On se donne donc rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt.